Alors bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Campus Tours 99.5 FM, nous sommes à la Vegan Place de Tours et nous allons vous proposer comme tous les ans un programme de table ronde réparti sur l'après-midi. Le programme est visible un peu partout sur la Vegan Place tout le long du boulevard. Alors la première table ronde est consacrée au Prix Maya, le prix littéraire qui récompense chaque année depuis 2019 des ouvrages faisant avancer la cause animale. Les lauréats de l'édition de 2025 ont été annoncés le 30 mars dernier à la librairie Utopia à Paris. Ils ont reçu leur récompense ce matin. De belles illustrations réalisées par Florence Delery à l'issue de la conférence de Peter Singer et Paul Watson au Vinci. Alors, les lauréats nous font l'honneur de leur présence sur ce plateau radio en ce début d'après-midi. Alors, laissez-moi vous les présenter rapidement. Donc, il y a Charlie Gilmour, qui est anglais, et son livre « Première plume », traduit par Anatole Ponce-Remaud, et publié par les éditions Métayer, est récompensé dans la catégorie « Récit ». Nous avons aussi Nicolas Joliveau, qui est venu en voisin, puisqu'il vit à Saumur, il me semble. Voilà, il est artiste plasticien, il pratique le carnet de voyage, c'est ce que j'ai lu un petit peu sur Internet, à l'autre bout du monde, mais aussi dans son jardin. Voilà, son livre illustré « Tino, un merle au jardin », publié par les éditions Onfay, maison d'édition voisine, puisque basée à Amboise, et qui raconte une année de la vie du merle Tino, qui est aussi son voisin. Décidément, c'est vraiment une histoire de voisinage avec Nicolas Joliveau. Enfin, François Saronneau est un océanographe de renom. Le livre « S'il te plaît, dessine-moi un cachalot » est le fruit d'un dialogue entre lui et l'illustratrice Pomme Bernos, qui est absente ce jour. Il a reçu la récompense dans la catégorie bande dessinée. Il raconte de manière ludique, mais aussi de manière très instructive, la vie d'une communauté de cachalots vivant près de l'île Maurice, que François Saronneau et son équipe ont côtoyé et étudié pendant plusieurs années. Une quinzaine d'années, c'était ça un peu.
C'est ça, bonjour.
Bonjour. Alors avant d'écouter nos invités, on voulait donner la parole à Caroline Brasso, qui tout au long de l'année en fait, a écrit et enregistré sur son site le temps d'une chronique, des chroniques dédiées à l'ensemble de la sélection du Prix Maya 2025. Donc on voulait lui donner la parole pour qu'elle nous fasse un petit retour sur la sélection de 2025. Caroline, tu as la parole.
Bonjour à tous. L'éléphante Maya a été capturée en Asie dès son plus jeune âge pour être exploitée dans l'enfer des cirques pendant 40 ans. Grâce à une mobilisation citoyenne soutenue, elle est libérée le 5 juillet 2018 et devient l'emblème du prix littéraire du même nom. Une façon de lui rendre hommage à elle et à tous ces individus à écailles, fourrures ou plumes, invisibilisés et non considérés. La zooinclusivité et leur représentation dans la littérature sont capitales. Vivant parmi les vivants, nous faisons un tout avec eux et la cohabitation cesse d'être une option, mais bien le remède face au bruit du monde. Un livre qui se referme sur une rencontre inattendue peut être l'amorce d'un déclic. Cette année, la sélection du Prix Maya nous a régalé de lectures esthétiques, féministes et dystopiques. La vulgarisation scientifique et l'éthologie ont fait une entrée remarquée en littérature jeunesse, essaimant un gai savoir. Un album flamboyant nous révèle les secrets de famille des animaux et leurs schémas parentaux. La survie y relève de l'exploit et la résistance farouche s'organise face à des écosystèmes de plus en plus chancelants. Des facultés d'adaptation hors normes dont fait preuve la grue cendrée, athlète intrépide qui nous invite dans ses périples par-delà océans et terres arides. Trois ouvrages résonnent de voix féminines en écho à la souffrance animale, véritable sujet politique. L'amour inconditionnel d'Ovidie pour ses chiens est un miroir du combat qu'elle porte à bout de bras. Un fabliau truculent et irrévérencieux sur les procès d'animaux dénonce également les violences faites au corps de femmes, qui se mêlent au corps de ferme, dans un autre roman magistral, huis clos polyphonique sensoriel, mêlant social et intime. Les animaux prennent la parole quand les humains ne s'entendent plus. La réalité ne fait qu'effleurer nos consciences endormies. La fiction est là pour nous réveiller. Le mythe du savant fou, dépassé par sa créature, fait mouche dans une glaçante fable québécoise. En 1942, transformer un insecte en arme bactériologique n'était peut-être pas une si bonne idée. Aux États-Unis, on a demandé aux chimpanzés de singer les humains, préambule à une catastrophe annoncée. La dérive n'est jamais loin, tant la limite est mince entre recherche scientifique et volonté obsessionnelle de tout contrôler. Changer notre monde et non le monde, c'est avant tout prendre conscience de ce que nous mettons dans nos gosiers. Un véritable kit de survie en provenance de la culture nippone est à l'honneur dans un incontournable premier manga vegan. parce que nous partageons les mêmes territoires et les mêmes histoires, et que notre espèce dépend de celle du peuple animal, la question du vivre ensemble devient centrale. Un mémorable rendez-vous en terre inconnue chez les Eurocaines nous décrit les liens puissants entre autochtones et ours, là où la nature est reine. On recroise ce plantigrade débonnaire, passant son temps à se poêler avec son pote trappeur farfelu et échevelé. Leur connivence est possible dans les respects de chacun. À la croisée des trois ouvrages primés par le jury du prix Maya, il y a cette urgence à envisager de nouvelles alliances, indispensables pour l'habitabilité d'un monde commun. Charlie Gilmour trempe sa plume dans un passé obsédant pour mieux encaisser le présent et préparer l'avenir. La pie benzène tombée du nid qu'il décide de prendre sous son aile annonce le début des réjouissances, un récit autobiographique intimiste de grande classe, habité par la grâce, qui nous fait passer d'un naturel renversant à la gravité, de l'autodérision à la drôlerie, un roman d'apprentissage et de filiation de haut vol. Dans le jardin de Nicolas Joliveau, vit Tino, le merle, à moins que ce ne soit l'inverse. L'originalité de cet ouvrage, digne des plus grands naturalistes, repose sur l'observation attentive et commune, continue, d'un individu au fil des saisons. Véritable éloge au plaisir pur de la reconnexion à l'autre et au ravissement. 120 pages de dessins et peintures qui honorent le goût du temps qui passe, sans que l'on se lasse. Entrée au cœur d'une nature dont nous sommes de plus en plus éloignés, et l'occasion d'une introspection bienvenue. Le troisième ouvrage récompensé est le fruit d'une collaboration réjouissante et poétique entre François Sarano, océanographe de renom, conteur hors pair, et Pomme Bernos, graphiste au crayon de couleur audacieux. Ce récit scientifique unique en son genre et véritable tour de force nous ouvre les portes d'un savoir immense sur le monde méconnu des cachalots, peuple placide qui fascine depuis la nuit des temps. Un pari fou, relevé haut la main, car expliquer la génétique en dessin n'est pas aisé. Notre regard change, le grand public est gâté, invité d'honneur dans le grand bleu. Elliot, le cachalot, Tino, le merle, ou Benzen, la pie, chaque rencontre honore et célèbre les conditions d'un nouveau dialogue. Pour conclure, je laisse la parole à Irène Gueultordu, honorable matriarche de son clan, qui a quelque chose à nous dire. Chers colocataires humains, parmi tous les êtres vivants qui peuplent notre terre-océan, vous êtes les seuls à avoir les moyens de détruire sans harmonie. Mais vous êtes également les seuls à avoir conscience de sa singularité exceptionnelle, de la majesté de son histoire, de la diversité éblouissante des créatures qui la peuplent. Vous êtes les seuls à pouvoir imaginer ce que pourrait être le futur de l'aventure de la vie, effroyable ou harmonieux. C'est cette liberté d'agir en toute connaissance de cause qui fait de vous des créatures à part. C'est cette différence géniale qui vous impose la responsabilité de regarder le futur en face et de choisir qui vous voulez être. Car c'est à l'aune du respect que vous aurez envers vos frères humains et non humains que vous construirez votre humanisme qui fait pleinement de vous des sapiens.
Merci Caroline. Alors nous revenons à nos invités. Alors pour présenter vos livres, puisque c'est le point de départ évidemment, est-ce que vous pouvez nous faire un portrait de vos personnages principaux, hein, qui sont des animaux que vous avez côtoyés et avec qui vous avez noué de véritables relations et que vous nous présentez dans vos livres comme ce qu'ils sont, des individus singuliers avec leur personnalité. La singularité, François Sarano, c'est un peu le terme que vous avez mis en avant quand vous avez reçu le prix Maya. Est-ce que vous voulez éventuellement commencer en nous parlant d'Irène Gueultordu et des membres de son clan ?
Alors, 17 femelles adultes et une vingtaine de jeunes que souvent nous avons vus naître, que nous avons vus grandir et peu à peu, justement, exprimer leur extraordinaire singularité, personnalité. Je voudrais dire que je crois que nos trois histoires sont fondées sur une chose, la confiance. Les cachalots nous font confiance. Probablement, la pie, le merle, fait confiance à l'humain qui, tout d'un coup, veut tisser des relations avec lui. Et ce qui est caractéristique dans le clan d'Irène Gueultordu, c'est le partage de moments communs. C'est comme ça qu'on a pu, avec Pomme, avec Véronique, mon épouse, et avec les autres, comprendre qui ils étaient. C'est quelque chose qui est fondamental. D'abord, il faut tisser un lien de confiance. Après ça, on s'écoute. Et après, on peut raconter l'histoire de l'autre. Et on découvre que c'est une formidable exploration, aussi passionnante que d'essayer de rentrer dans la tête de chacun d'entre nous, les humains. Comme nous, ils ont une intelligence, une conscience du monde qui est très différente, mais qui est d'une extrême sensibilité et, j'allais dire, qui est singulière. Je n'ai même pas les mots pour dire ce qu'elle est, et donc par nécessité, digne de respect. Et j'ajouterai, parce que je pense qu'on va, et c'est important d'insister là-dessus, le cachalot, le merle, la pie, sont des animaux que nous nommons. Par conséquent, nous les reconnaissons et que nous fassions plus ou moins relation avec eux, c'est déjà important. Mais il y a des tas d'êtres vivants, et je soulignerai que les plantes en font partie, que nous ne reconnaissons pas. Il y a des dizaines, des centaines de milliers d'espèces qui n'existent pas à nos yeux, qui sont juste rien. Tant que nous ne donnerons pas droit d'existence, tant que nous ne prêterons pas attention à chacune d'elles et à chaque individu qui l'a fait, alors je pense que nous louperons quelque chose et que nous n'aurons pas la vraie, nous n'arriverons pas à trouver notre juste place parmi eux. Prêtez attention à chacun.
Charlie Gilmour, est-ce que vous voulez nous faire le portrait de Benzen, la pie ?
Is the mic on? Yes. Premier plume. Is a true story written in the style of a novel, and it was quite easy to write a true story in the style of a novel because one of the main characters, Benzene the Magpie, was this kind of larger than life character. There are really two main characters, both charismatic, destructive, charming creatures. One was Benzene the Magpie, and the other one was my biological father. The story really begins when my partner found a baby magpie lying in the gutter and brought her home. Do you want to?
Oui, en effet, c'est une véritable histoire. Le roman Première Plume raconte une histoire véridique que j'ai tenté d'écrire dans le style d'un roman, ce qui était très facile puisque la pie Benzen est un personnage haut en couleur. Et il y a en fait deux personnages au centre de ce récit. L'un est mon père biologique et l'autre est la pie Benzen. Et les deux ont cette caractéristique commune d'être des personnages extrêmement spécifiques et très particuliers en un sens. Et l'histoire a commencé lorsque ma compagne a trouvé cette pie tombée du nid, probablement dans le caniveau.
And I had absolutely no idea about birds. I was entirely ignorant of them. I ascribed to the idea that basically non-human animals were basically biological machines, incapable of personality, character, thought, no subjectivity. And then I found myself with this magpie, and magpies have character, they have personality, they have subjectivity, and this to me was an enormous revelation.
Alors au début, quand cette histoire commence, je n'avais aucune espèce de connaissance réelle des oiseaux et pour moi j'étais très ignorant, je pensais que les animaux non humains étaient comme des machines en fait, qui n'avaient pas de subjectivité, alors qu'en fait j'ai eu l'occasion de découvrir de manière très proche que les pies ont une véritable subjectivité, ont un tempérament individuel et donc effectivement cela m'a beaucoup fait évoluer.
You know, she was intelligent, destructive. My grandmother, who is a quite radical communist, former member of the Red Army, decided that she was going to teach this magpie to talk, just to give one little story. And it was during the election, American election, of Donald Trump. And she had the magpie on her hand, and she had the newspaper here. She said, "Come on, Benzene, repeat after me. Fuck Trump." And no, don't clap. Because the magpie said, "Trump, Trump." And then later, the magpie learnt to say, "Come on." And so her one sentence in English was, "Come on, Trump," which she said with delight and glee at every opportunity.
Alors, en fait, les pies sont des animaux intelligents et destructeurs. Alors, juste pour donner une anecdote, ma grand-mère maternelle, qui est un personnage là aussi assez haut en couleur, qui a servi dans l'armée rouge en Chine notamment, a décidé à un moment donné d'apprendre à parler à la pie benzène. Et c'était en 2015-2016, au moment de la première campagne présidentielle à la suite de laquelle Trump a été élu. Et la pie a d'abord appris, elle a essayé de lui apprendre à dire « fuck Trump », que j'ai pas besoin de traduire, je pense, que tout le monde a compris. Et il faut pas trop applaudir, en fait, parce que la seule chose que la pie a réussi à dire, c'est « Trump ». Et ensuite, elle a réussi à apprendre à dire « come on ». Donc « allez, allons ». Et donc la pie passait son temps à dire « allez Trump », avec énormément de joie et de plaisir et de délectation.
Nicolas Joliveau, est-ce que vous voulez nous faire le portrait de Tino ?
Tino, je dois dire que personnellement, je reviens de loin parce qu'il y a encore 5 ou 6 ans, je faisais la différence entre un pigeon et un moineau à peu près, mais ça s'arrêtait là. Et justement, je m'étais dit que je ne connaissais pas assez les oiseaux de mon jardin. Donc j'ai fait un premier ouvrage qui s'appelait « Voyage de mon jardin », où j'ai essayé de répertorier tous les oiseaux qui venaient. Et j'ai essayé de parler de toutes les plantes qui étaient dans mon jardin, les insectes, et même les habitants. Et puis, une fois, j'ai vu le merle qui s'est jeté sur le chat du voisin pour le faire fuir, parce qu'il approchait trop près du nid. Moi, dans ma tête, un chat, ça attaquait un oiseau, et éventuellement, ça le mangeait ou ça le tuait. Mais je ne connaissais pas le phénomène inverse, c'est-à-dire le merle qui vient protéger le nid de la merlette en chassant le chat. Et j'avais l'impression de ne pas avoir tout dit dans le premier livre, et je me suis dit, je vais faire un deuxième livre, il faut que je choisisse une sorte de héros de mon jardin, et ce héros, c'était ce merle. Alors, je l'ai appelé Tino, comme ça, instantanément. Bon, vous imaginez bien, quand même, pour quelles raisons. Alors, les plus jeunes, ça leur parle pas beaucoup. Les plus anciens, ça doit leur rappeler quelqu'un qui avait les cheveux un peu gominés, qui chantait très bien autrefois. Donc je l'ai appelé Tino instantanément. Et j'ai bien aimé le mot « confiance » qui a été exprimé avant, parce que petit à petit, chaque jour, sans vouloir m'ingérer dans sa vie, mais je voulais vivre à proximité de lui, essayer de le comprendre. Et je pense qu'il y a une relation de confiance qui s'est établie, à tel point que ces histoires de chats, parce que alors, les histoires de chats, quand on observe les oiseaux, c'est assez fréquent. Surtout que les merles, en plus, ils ont un cri pour prévenir toute la communauté des merles que le chat du voisin est rentré dans le jardin. Je sais maintenant que ce merle Tino vient me chercher quand le chat est dans le jardin pour que je fasse fuir le chat. Et c'est, moi, il y a 5-6 ans, je n'imaginais pas ça un seul instant. Et en fait, il n'y a pas vraiment un dialogue entre nous deux, mais il y a des petits cris maintenant que je comprends mieux. Lui, il me reconnaît, j'en suis sûr, parce que quand c'est d'autres gens qui sont extérieurs au jardin, il s'enfuit plus vite que moi. Il me supporte beaucoup plus près. La merlette aussi. La merlette, il y a encore 3 semaines, j'ai jardiné, elle était à 1 mètre de moi. Et j'ai trouvé ça formidable, parce que d'habitude, c'est plutôt le rouge-gorge qui est à proximité. Là, c'était la merlette. Ce que je n'avais jamais vu 5 ou 6 ans avant. Donc ça veut dire que j'ai réussi en faisant attention, en les écoutant, en les regardant, à justement créer ce lien de confiance. Voilà.
François Sarano, dans « S'il te plaît, dessine-moi un cachalot », il est fait référence à des représentations mythiques associées au cachalot, qui n'a pas entendu parler de Moby Dick. Et vous rappelez que derrière ces représentations, il y a une chasse et une exploitation terrible des cachalots qui a duré très longtemps. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ?
Elle a duré si longtemps qu'elle n'a été arrêtée qu'en 1980. Et les années les plus dures de la chasse ne sont pas les années 19e ou même 18e siècle. C'est le 20e siècle. Après la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 1960, on tuait 35 000 cachalots par an, ce qui a mené la population mondiale au bord de l'extinction. Et dans certains endroits, en particulier l'océan Indien, les populations décimées n'étaient même plus chassés. C'est pour ça que le moratoire qui a été demandé par Paul Watson et un certain nombre, je faisais partie de l'équipe Cousteau à l'époque, qui insistait sur ce moratoire, a été accepté. Parce que c'était plus rentable. Bon, mais à l'époque, on pensait population. Et je reviens sur maintenant ce que je découvre, pardon, ce que l'invitation des cachalots nous ont fait découvrir, c'est vraiment la singularité de chacun. Il ne s'agit pas de protéger des populations, il s'agit de rencontrer des individus et de bien considérer chacun en tant qu'individu singulier. On ne sait pas protéger la population humaine. C'est chacun d'entre vous à avoir une relation intime avec lui et considérer individuellement. Revenons à ça, il n'y a pas d'être vivant qui ne soit pas singulier. Et donc cette chasse a mis à mal des millions de cachalots. Aujourd'hui, les populations, je reviens au niveau général, semblent aller mieux, bien que la menace de notre activité croissante dans les océans, la navigation, la pollution... cause de nouveaux troubles qui les mettent à nouveau en danger. Mais ce qui a radicalement changé quand même, c'est le fait qu'ils nous accueillent. Quand j'étais sur la Calypso dans les années 80, il était impossible de se mettre à l'eau avec des cachalots. Les dernières fois où nous étions dans le clan du Irène Gueule Tordue avec mon épouse, c'est le froid qui nous faisait sortir de l'eau alors que nous étions... comme en ce moment, côte à côte, parmi eux. C'est des grands animaux. Hein. Il faut réaliser que ces cachalots font 10 mètres, 11 mètres. Il y en a à côté, à droite, à gauche, devant, derrière. Nous sommes parmi eux, un petit peu comme des ethnologues immergés au cœur d'une société qu'ils souhaitent comprendre pour après raconter cette société. Eh bien, cette confiance qu'ils nous accordent nous a permis de vivre avec eux des moments. Comment dire, quand vous êtes à côté d'arènes qui t'aident, sa maman Lucie et sa maman qui comme les nôtres, qui semble avoir une attention maternelle incroyable. Quand vous êtes avec et Elliot qui tout d'un coup qui vous invite, qui se positionne sur le dos, qu'il vous offre son ventre, qu'il vous demande des caresses, quand il insiste pendant 10 minutes, j'insiste là aussi, ce sont des animaux sauvages, libres, indomptés, qui ont l'océan pour eux. Et là, tout d'un coup, Elliot veut tisser des liens. Il communique pas simplement avec des sons, hein, on a l'impression que quand on parle communication, il n'y a que vocal. Non, avec des attitudes, avec des élans, avec des approches. C'est comme je le fais en ce moment, vous auditeurs, désolé, vous ne voyez pas, mais je bouge beaucoup, j'ai des mains qui veulent parler, des yeux qui veulent parler, un sourire qui veut parler. Les cachalots, c'est pareil. Et quand tout d'un coup, un animal sauvage vient, vous interroge et vous interpelle pendant 10 minutes, qu'il est bien, donc, parce qu'il ne s'en va pas, mais vous êtes juste bouleversé, comme chacun, vous avez été bouleversé par votre merle et par la pie. Ça ne peut pas être autrement. Parce qu'on ne triche pas avec un animal sauvage. Et la rencontre qu'il offre, elle est authentique. Et donc, au-delà de cette incapacité à communiquer par le langage, cela montre que l'on peut tisser des liens de paix, paisibles, qui offrent un bonheur fou, qui offrent la plénitude, par-delà ça. Et qu'il n'y a qu'une chose qui compte, c'est la volonté de rencontrer l'autre. La volonté, et ici, c'était la volonté de Elliot le cachalot, auquel j'ai répondu. Donc ça dépend que de nous de tisser des liens de paix et de sérénité avec les autres vivants.
Charlie Gilmour, dans votre livre, un peu de la même manière, vous faites plusieurs références à des représentations très négatives aussi des pies. J'en ai découvert un certain nombre. Et l'idée, là, comme disait François Sarano, c'était pour mieux les dépasser et vraiment se centrer sur l'animal réel et singulier qui est la pie benzène. Ceci dit, est-ce que vous pouvez reparler un petit peu de ces représentations négatives que vous avez découvert? Vous avez découvert que la pie était un animal particulièrement détesté, chassé. On a vu il n'y a encore pas longtemps, là, en France, des pies qui avaient été piégées, et effectivement, qui ont été libérées. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu?
So when this baby magpie arrived, I googled, what do you do with a baby magpie? And the Google result was basically, kill it. So I thought, okay, that's no good. I can't kill this baby bird. What am I going to do? So I called the same grandmother because over the course of her life, she's kept many, many animals. She had geese, she had chickens, she bred dogs, she had a pet monkey that used to pee in people's coffee. And so I thought, if anyone knows what to do with a magpie, my grandmother will know.
Oui, alors quand on a trouvé et décidé de sauver cette jeune, très jeune pie, j'ai fait ce qu'on fait tous, c'est-à-dire que je suis allé sur Google et la réponse qui est arrivée sur Google, c'est qu'il fallait la tuer. Donc c'est évidemment pas du tout ce que je voulais faire, j'allais pas tuer une jeune pie. Donc j'ai téléphoné à ma grand-mère, toujours la même grand-mère, parce que je me suis dit qu'elle saurait quoi faire, parce qu'elle a élevé un très grand nombre d'animaux au cours de sa vie, des oies, des chiens. Elle a même eu un singe apprivoisé qui pissait en fait dans le café des invités. Donc voilà, elle savait forcément ce qu'il fallait faire.
And I said, I've got this baby magpie, what shall I do with it? She said, magpie, horrible bird, why don't you drown it?
Et sa réaction a été, une pie, mais quelle horreur, c'est un oiseau atroce, il faut tout de suite le noyer.
And, you know, magpies get a very, very bad press. You know, people believe that they peck out the anuses of baby lambs when they're born. In Scotland, they believe that magpies carry a drop of the devil's blood under their tongue. It's very bad luck to see one. If you don't salute it, then you're in for a terrible day. They carry all of this superstition along with them. And I was sort of vaguely aware of some of that superstition. Do you want to translate that?
Yeah. Oui, je vais traduire ça, effectivement. Effectivement, les pies ont très mauvaise presse. Il y a plein de croyances complètement hallucinantes, des superstitions. On croit qu'elles arrachent les yeux des agneaux. En Écosse, on croit qu'elles portent le sang du diable, qu'elles ont le sang du diable. Et que si on n'en voit pas une, quand on en voit une, si on ne la salue pas, il peut vous arriver des choses horribles. C'est toutes ces superstitions, effectivement, dont je n'étais pas du tout conscient avant de devoir effectivement m'occuper de cette jeune pie.
So I called my mother and said, you know, what shall I do with this magpie? Grandmother says drown it, the internet says kill it. What shall I do? And she said the one person you should talk to is your biological father. This was a man called Heathcote Williams, who was an eccentric poet who vanished when I was a small baby. I never knew him. But I had his telephone number. I said, why should I call him? Why would I call him? She said, well, he had an identical relationship with a jackdaw, which is another member of the crow family. And he wrote a poem about it. And so you should call him and ask him. And I said, absolutely not. Just fed the bird cat food instead. Mm-hmm.
Ok, et quand j'ai téléphoné à ma mère, que je lui ai dit, mais en fait, je comprends pas, ma grand-mère me dit de noyer la pie, Internet me dit de la tuer, et en fait, ma mère m'a dit, en fait, la personne que tu dois appeler, c'est ton père biologique. Alors, il faut savoir que mon père biologique était un poète assez connu, Heathcote Williams, que je n'ai jamais connu parce qu'il est parti quand j'avais 6 mois, et que j'ai très peu fréquenté, j'avais quand même son numéro de téléphone, et en fait, j'ai dit à ma mère, mais pourquoi est-ce que je devrais l'appeler lui? Et j'ai appris à cette occasion, ma mère m'a appris qu'il avait eu une relation très très similaire avec un chouka, en fait. Et bon, en fait, j'ai décidé de ne pas appeler mon père malgré tout et de donner plutôt de la nourriture pour chat à la pie.
Thanks. Nicolas Joliveau, alors vous en avez parlé un petit peu, il n'y a pas que Tino Le Merle, il y a Tinette. Voilà, la merlette, donc vous présentez un petit peu effectivement Tino, qui est un animal social, qui a des relations avec d'autres merles et puis avec aussi d'autres oiseaux. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu?
Je voudrais revenir aussi sur le...
Bien sûr, allez-y.
Juste
bien
sur
sûr.
L'histoire de la pie sur les moteurs de recherche. Quand j'ai fait mon livre sur le jardin, dès que je cherchais quelque chose concernant un insecte ou un animal, la première réponse, effectivement, c'était comment s'en débarrasser. Le crapaud. J'ai un crapaud dans mon jardin, il faut s'en débarrasser. J'ai des punaises dans mon jardin, il faut s'en débarrasser. J'ai des limaces dans mon jardin. En fait, si on prend quasiment tous les animaux du jardin, il faut s'en débarrasser. C'était juste pour revenir aussi par rapport à la pie. Concernant Tino et la merlette, que j'appelais Tinette juste pour associer à Tino, ce qui était beau d'observer, c'est toute cette période qui commence dès la fin du mois de décembre, où il va falloir qu'ils travaillent tous les deux ensemble pour avoir une nichée. Et là, c'est déjà ensemble la reconnaissance des lieux. Ils cherchent un peu partout dans le jardin. Là, ils vont pouvoir s'installer. Et c'est passionnant à voir parce que la merlette, elle fonce dans le laurier pour voir si elle peut rentrer facilement. Elle s'aperçoit que c'est pas assez profond. Alors elle se dit non, c'est pas le bon endroit. Le merle, il va au-dessus de la boîte aux lettres, dans le jasmin. Puis il finit par penser, j'imagine, qu'il n'y a pas de possibilité de s'échapper dans l'autre sens, qu'il est un peu coincé. Donc ils vont passer plusieurs jours à chercher le bon endroit pour réussir ce qu'ils ont à faire. Et c'est là que j'ai compris aussi que moi, en tant qu'occupant du jardin, sans les aider, je pouvais leur faciliter la chose. C'est-à-dire que là où je taillais certaines plantes par... presque par habitude, parce qu'elle dépassait trop dans une allée, parce qu'elle elle faisait trop d'ombre à un endroit. C'est justement cette plante-là qui, quand on la laisse pousser, accueille le nid du merle. Donc il faut, pour que le merle s'installe dans le jardin, il faut penser un peu à lui et penser à la façon dont on traite nos végétaux. Et ça c'est important parce que ça évite de couper l'herbe trop tôt, ou d'enlever les brindilles du jardin parce qu'elles vont servir à la merlette pour construire le nid après. Donc il faut laisser un petit peu son jardin en friche, il faut laisser quelques plantes qui débordent. Et ça, j'ai appris ça grâce à eux. Voilà, j'ai appris à être un peu jardinier grâce à eux.
François Sarano, dans votre livre, vous en avez parlé un petit peu, on découvre l'incroyable richesse des interactions sociales entre les cachalots. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples ?
Alors, un clan de cachalots, donc il n'y a que les femelles adultes et les juvéniles. Il y a un personnage principal dans un clan de cachalots. C'est pas la plus forte, c'est pas la plus expérimentée des femelles. C'est la babysitter. Pourquoi ? Parce que c'est elle qui garde la crèche pendant que les autres femelles vont aller chasser dans les profondeurs et vont laisser leurs enfants en surface, un peu à la merci des prédateurs. Et toute l'organisation sociale tourne autour de cette babysitter et d'autres personnages tout aussi importants, les nounous allaitantes. La babysitter ne fait que garder la crèche, elle se laisse téter relativement souvent, mais elle n'a pas de lait. Mais il y a les nounous allaitantes à qui chaque mère qui a un petit va confier son petit lorsqu'elle ne peut plus allaiter, soit pendant la journée qu'elle ne soit pas là pour aller chasser, soit qu'elle n'a plus de lait, soit que la petite est, ou le petit est trop en demande. Ce que ça montre, c'est que c'est une société très 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 solidaire et qui ne peut vivre que grâce à cette solidarité et que les personnages importants, c'est ceux qui aident les autres. Et ça, on le découvre, encore une fois, en vivant parmi eux. On a passé avec Véronique là, des heures dans la crèche, des heures où on voit les petits qui jouent entre eux, puis tout d'un coup un qui est un petit peu plus turbulent, qui va bousculer l'autre, et là, Germine, la babysitter, arrive et l'écarte un petit peu, et fait place pour la petite qui vient parfois qu'il y a quelques jours, mais non, faut pas la bousculer comme ça. Et on découvre donc quelque chose qui est très... Je ne peux pas trouver d'autres mots, je m'excuse pour ce vocabulaire, qui est très humain, qui nous rapproche complètement. Non seulement ce sont des mammifères, encore une fois la mère a toute son attention quand elle laisse téter son petit, mais après ça, la structure sociale et les échanges. Dernière chose, ces échanges auxquels on prête attention souvent quand ils sont bruyants. Donc c'est ce qu'on appelle des codas et des expressions sonores. Ils s'expriment essentiellement, non pas par ces expressions sonores, mais par des caresses. Les cachalots sont les maîtres S-caresses. Ils passent leur journée, ces titans, ce sont des monstres de caresses qui s'enroulent les uns contre les autres, qui roulent, qui se frottent avec une délicatesse. Il faut voir la légèreté de ces animaux quand ils dansent dans le ciel de l'océan et qu'ils arrivent légers à se caresser les uns les autres. C'est incroyable. C'est ça qui est quelque chose qui nous bouleverse. Si nous avions la même délicatesse entre nous les humains et avec les autres, voilà, le monde serait changé.
Charlie Gilmour, vous, dans votre livre, vous évoquez le caractère social de Benzène, mais dans une dimension, on dirait, un plus interspécifique. C'est ce que vous pouvez nous raconter la place que Benzène a pris dans votre famille. Hein. Dans votre livre, vous racontez des scènes assez savoureuses avec des repas de famille où vous dites vraiment c'est un joyeux tableau de famille.
So, première plume, my story with Benzene is it's kind of a story about exactly how you shouldn't raise a baby bird if one comes into your life. We did absolutely everything wrong. We kept it in our home. We treated it like kind of like a human baby. Me and my wife, you know, we petted it, we stroked it, we taught her to speak English, and when she was able to fly. And we took her outside to the countryside, to the farm where my parents live, and let her go. And she flew up, 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 up in a big circle, and then down, 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 and landed on my shoulder, and then was with us for the next 3 or 4 years, and really, really became deeply enmeshed in our family life. My grandmother, who began wanting to kill magpies, decided to make an exception, but only for this one specific magpie. She would sort of ride around on the dogs, pulling their ears and bullying them, making them cry, stealing their balls. When a year had passed and nesting season came around, she was so part of the human world that she didn't go looking for another magpie to build her nest with. She started going around the kitchen stealing chopsticks and bits of straw from hats and started building a nest on the fridge and then stole my keys and tried to get me to come into the nest with her as her partner. So our family life became much more wild, and this wild bird became a part of human society, and it was this strange sort of intermingling of wild and tame.
Alors le livre est en grande partie un manuel de tout ce qu'il ne faut pas faire quand on trouve une pie, parce qu'on a fait tout ce qu'il fallait pas en fait, puisqu'on l'a évidemment, ma compagne et moi on l'a traité vraiment comme un bébé humain, on a essayé de lui apprendre à parler anglais, quand elle a fini par réussir à voler, et quand on l'a amenée à la campagne chez mes parents, elle s'est envolée, elle est partie assez loin, elle est revenue immédiatement, s'est posée sur mon épaule, et on l'a eue avec nous pendant les 3 ou 4 années suivantes. Donc elle est devenue vraiment complètement, intimement liée à toute la vie de famille. C'est devenu un membre à part entière de la famille. Ma grand-mère a fait une exception puisqu'elle déteste toutes les pies et elle a décidé que celles-ci étaient différentes. Et donc la pie a fait tous les sales tours qu'elle pouvait faire à l'intérieur de la maison. Et lors de la première saison de nidification, quand Benzène a eu 1 an, ce qu'a fait Benzène, au lieu d'essayer de construire un nid avec d'autres pies, en cherchant évidemment un partenaire pie, elle a piqué tout un tas de choses dans la maison. Elle a commencé à construire un nid sur le frigo et elle a commencé à me demander, notamment à moi, mais aussi à d'autres membres masculins de la famille, de venir construire le nid avec elle. Et donc, il y a une espèce de mélange complet, en fait, de sauvage et d'apprivoisé dans cet animal tel qu'il s'est développé.
Je voulais qu'on parle un petit peu de Pomme Bernos, parce qu'elle est absente aujourd'hui, et puis dans son livre, son travail, c'est très amusant, c'est très ludique et c'est aussi très instructif. Comment vous avez travaillé avec Pomme Bernos pour ce livre, du coup, François Sarano ?
Avec bonheur. Pomme est quelqu'un de formidablement cultivé, elle est un chercheur remarquable et elle a beaucoup d'humour. Et donc... Je pense qu'il y avait qu'elle pour rentrer comme ça dans votre monde pour parler des cachalots. Et je dis votre monde parce que le monde des humains, et j'en fais partie aussi, mais est un peu particulier parce qu'il est fermé à l'écoute des autres. Et elle a su, grâce à son dessin, grâce à son humour incroyable, réussir un tour de force. Et en particulier... Quand je lui ai dit, on va parler de l'Umwelt. L'Umwelt, c'est le monde propre de chaque cachalot. Et tu vas dessiner ça. Le monde propre de chaque créature, pardon. Et donc, comment dessiner le monde de l'autre alors qu'on n'a pas ses propres, on n'a pas ses sens ? C'est impossible. Hein. Thomas Nagel, le philosophe, avait écrit « What is like to be a bat ?» Et c'était « Qu'est-ce que c'est que d'être une chauve-souris ?» La conclusion, c'est qu'on ne peut pas savoir tant qu'on n'est pas une chauve-souris. Eh bien, la conclusion que nous avons là, c'est pas simplement une chauve-souris, c'est là, celle-ci de chauve-souris. C'est Elliot, c'est Irène Gueule-Tordue, c'est Germine. Je ne peux pas savoir ce que vous, auditeurs, en ce moment, entendez de ce que je dis, parce que les mots que j'emploie ont un sens qui correspond au référentiel que j'ai, moi. Et chacun a son référentiel propre qu'il construit au cours de sa vie, expérience après expérience. Donc les mots ne résonnent pas tout à fait de la même manière. Alors comment imaginer rentrer dans la tête d'un cachalot qui a des sens que nous n'avons pas ? On ne peut même pas exprimer comment il nous perçoit. Qu'est-ce que, moi, humain, je suis pour un cachalot ? Des sortes de formes d'écho. En fait, il perçoit le monde non pas en le voyant, mais grâce à l'écoute de l'écho des qu'il émet. Donc ça doit donner des sortes d'ondes, mais c'est beaucoup plus que ça. Parce qu'on sent quand on est parmi eux, quand on vit parmi eux, qu'ils perçoivent nos états d'âme. D'ailleurs, chacun ici qui a un chien, un cheval, un chat, sait que ce chat sait quand vous n'êtes pas bien, quand vous êtes bien, quand vous êtes d'humeur rieur, etc. Les cachalots, c'est pareil. Donc tous ces sens-là, c'est compliqué de les intégrer, puisqu'on n'a pas des mots pour décrire ça, et après de rentrer dans leur tête. Bref, donc on est là, avec Pomme, pour essayer de décrire le monde propre de Elliot. Et puis, une semaine passe, elle me dit « j'y arrive pas ». Je savais. Et au bout d'un moment, elle me renvoie des feuilles toutes grabouillées. Toutes grabouillées. Voilà, tu as réussi. On ne peut pas. L'idée, c'est de dire, on a beau vouloir rentrer dans le monde de l'autre, on ne peut pas. Mais la conclusion de ça après, c'est que malgré cette incommunicabilité, on peut trouver la distance juste pour être en paix et s'apprivoiser. J'entends pas tout à fait le mot apprivoiser comme chacun l'entend. Je trouve que apprivoiser, c'est le plus beau mot qui existe. Parce que c'est établir une relation sans soumission dans laquelle les deux partenaires sont bien, sont en paix. C'est à ça qu'il faudra arriver avec tous les vivants.
L'apprivoiser qu'il y a dans le Petit Prince de Saint-Exupéry, hein. Nicolas Joliveau, je voulais aussi qu'on parle un peu de vos illustrations parce qu'elles sont très belles, elles sont magnifiques. C'est comme un des éléments fondamentaux du livre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez travaillé sur...
Alors, comme pour le livre précédent, c'est d'abord je suis souvent réveillé par le chant du merle parce que je dors toujours quasiment toute l'année la fenêtre ouverte. Donc, une certaine période, je suis réveillé juste avant que le soleil apparaisse par le chant du merle. Qui dort dans mon jardin, dans le Grand Laurier. Et je descends tôt, je bois mon petit café, je sors dans le jardin avec mon café, et puis je commence à repérer où est Tino, à l'époque où il était dans le jardin, où est la merlette, où est le merle. Et je passe une heure ou deux, à l'observer, à m'asseoir, à regarder, à écouter. Voilà, juste sans rien faire. En essayant de suivre tous ses mouvements, pourquoi il va là, pourquoi il revient, comment il se pose. Éventuellement, je fais quelques petits croquis. Et puis, l'après-midi, je passe dans mon atelier. Et là, c'était bien, parce que moi, je suis plutôt un carnétiste de voyage, donc qui part et qui dessine loin de chez moi. Là, je pouvais observer et dessiner sur place, vraiment au même endroit. Donc, en fin de matinée et tout l'après-midi, je dessinais ce que j'avais vu le matin. Et en même temps, je laissais la fenêtre de l'atelier ouverte et je pouvais entendre où était Tino Le Merle dans le quartier. Je reconnaissais son chant et en fait, je me suis aperçu qu'en 3 ou 4 mois de fréquentation, je reconnaissais son chant parmi les autres chants de Merle. Donc finalement, si on fait attention régulièrement, bon, c'est vrai que j'avais la chance de rester toute ma journée dans mon jardin, mais si on fait attention régulièrement, on peut distinguer un chant d'un merle d'un autre. Donc je le repérais dans le quartier à l'oreille, je savais à peu près ce qu'il disait, donc je savais que le chat de la voisine était sorti dans la rue, parce qu'il prévenait tout le monde. Par contre, quand le chat de l'autre voisin, qui était un peu plus vieux et moins dangereux, montait la rue, le maire ne lui disait rien. Donc il est capable aussi de reconnaître la dangerosité des chats. Et voilà, donc après, effectivement, l'après-midi, dans mon atelier, ben là, je rentrais plus dans les détails. J'ai travaillé aussi à partir de photos, parce que malheureusement, les oiseaux ne posent pas toujours le temps qu'il faut. Donc c'est ce mélange entre les croquis pour avoir une allure, une position. Ça, c'est important, un mouvement. Et puis après, travailler avec précision pour essayer de ne pas trop faire d'erreurs, presque en essayant de décider chaque plume, mais c'est difficile parce qu'un merle, je crois qu'il y en a plusieurs centaines. Donc, mais voilà, l'après-midi était plutôt consacré à la réalisation du dessin par rapport aux observations du matin. Mais je retournais en fin d'après-midi, surtout quand le nid était fait, pour aller voir à 5h du soir, tous les jours, passer une tête et puis voir si les œufs étaient pondus, si les petits étaient sortis. J'attendais que la merlette soit partie, j'ai cherché un peu à manger. Une fois, je suis allé, et il était 5 heures, elle est revenue en même temps que je suis monté voir dans le nid. Et là, elle m'a rouspété quand même. Elle m'a crié dessus, elle m'a dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Alors qu'elle me tolérait, mais non, il ne fallait pas que j'approche trop près.
Alors, pour conclure, ça sera une question que je vais vous adresser à tous les trois avant éventuellement un petit temps de questions-réponses avec le public. Comment vous voyez l'évolution de la prise en compte des intérêts des animaux sentients dans nos sociétés ? Et pensez-vous que la culture et les livres en particulier, c'est la vocation du Primaya, comment les livres peuvent contribuer à cette évolution ? Vous voulez commencer, François Sarano ?
Deux étages à la fusée. Le premier, personnel. Amenez chacun, vos enfants, vos petits-enfants, comme vous le faites avec votre merle, écoutez effectivement le matin les oiseaux. C'est-à-dire, prêtez attention à ceux, CEUX, qui vous entourent. Et prêtez attention à ceux qui vous entourent, c'est donner existence. Et lorsque tout d'un coup on donne existence, on s'intéresse. Et le lendemain, est-ce qu'il est là ? Nous pratiquons ça avec notre petite fille qui a 6 ans, petite fille Ayaté, le matin, mais je n'ai pas entendu la fauvette à tête noire ce matin. Est-ce qu'elle est partie ? On s'inquiète, on s'intéresse. Le lien qui se tisse est à la fois génial parce qu'il fait que tout d'un coup on est soucieux de l'autre. Et puis, partager, c'est un bonheur infini que ça nous offre. Par conséquent, tout ça apporte de la paix. Ça, c'est l'échelon individuel. Si nous ne construisons pas, nous, ici, tout de suite après, là, tout de suite, aller écouter les oiseaux, regarder les arbres, cet échelon personnel individuel, ce socle dur, alors rien ne changera. Et après, nous travaillons maintenant sur la reconnaissance juridique de chaque être vivant, avec une juriste de l'environnement qui s'appelle Marine Calmé. J'ai commis un ouvrage qui s'appelle « Justice pour l'étoile de mer », où nous disons que tant qu'on ne reconnaîtra pas l'existence de chacun, nous ne pourrons pas ajuster notre place à ses besoins. Il faut d'abord le reconnaître. Quand on est dans une négociation, on reconnaît même celui qui est son ennemi. Bon, on va discuter. Quand on est en colocation, c'est ce que nous faisons avec tous les autres vivants, eh bien, on va savoir qu'est-ce qu'il va prendre dans l'étage, dans le frigidaire, comme ça. On négocie. Mais d'abord, on l'a reconnu. Or, aujourd'hui, l'essentiel des vivants ne sont pas reconnus par nous. Par conséquent, il faut leur accorder un droit d'existence. Et après ça, nous serons à même d'ajuster notre place et de respecter, comme raconté avec le merle, ce dont il a besoin. Les broussailles dans le jardin, nous laissons libre évolution. Les broussailles, les ronces et les oiseaux s'y installent, les oiseaux, les hérissons, et tout le vivant. Et on est riche de ce vivant.
Charlie Guillemot.
I completely agree with what you're saying, and it's so inspiring to be here and to learn of all these books, imagining our ways into whales and blackbirds and, you know, the creatures of the sea and the air and the forest. As for what people can do, you know, I'd say exactly that, cultivate connection and use imagination and, you know, let the birds and the bees and the badgers and the foxes into your home and see what happens.
Donc je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit et je trouve ça évidemment très important qu'on échange aussi entre nous à partir de nos expériences, à partir de ce que l'on a pu écrire, des expériences passées, des textes ou des livres que cela peut donner. Et sinon, oui, je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit. Il faut absolument qu'on cultive les liens entre humains et entre animaux humains et animaux non humains. Il faut utiliser notre imagination et puis il ne faut pas hésiter à laisser entrer dans nos vies les abeilles, les blaireaux. Il y avait d'autres animaux, mais j'ai oublié lesquels. Donc voilà, c'était vraiment l'idée.
Nicolas Joliveau.
Je pense qu'on est j'ai l'impression qu'on était, quand j'ai fait mes recherches sur le merle, qu'on est au début de comprendre quelque chose. Qu'on est au début d'une connaissance de quelque chose. Parce que le merle, il a des sons. Il émet des bruits, mais totalement différents, même des bruits qui sont inaudibles pour discuter, par exemple, avec la merlette à certains moments. J'ai cherché dans des ouvrages, j'ai vu des documentaires, mais qui abordent très peu, finalement, l'apprentissage du langage des oiseaux dans toute leur diversité. J'ai pas trouvé énormément de sources, et j'ai l'impression qu'on est au début de quelque chose. Et j'espère que dans 5, 10, 100 ans peut-être, on pourra juste, en entendant un oiseau, savoir où est le problème. Parce que si on les comprenait, je pense qu'on pourrait régler un petit peu plus de problèmes d'environnement, par exemple. Voilà.
Eh bien, un grand merci donc à François Sarano, Nicolas Joliveau et Charlie Guilmour. Vous êtes toujours sur Radio Campus Tours. Là, on peut prendre 5-10 minutes pour quelques questions-réponses avec le public.
Peut-être une question, une des choses que vous avez tous en commun dans votre approche de ces animaux, c'est de les avoir nommés, prénommés plus précisément. Est-ce que c'était une nécessité pour vous pour les rendre plus proches de votre propre expérience du monde? Est-ce que c'est une nécessité pour vous pour nous les rendre plus proches? Comment est-ce que vous expliquez ce choix?
Mettre un numéro, nous les scientifiques, on met souvent une appellation alphanumérique. D'abord, ça n'aide pas mieux à les connaître et surtout, ça les réifie. Et il faut absolument lutter contre cette chosification, cette réification du vivant. Lorsqu'on veut nier l'existence de quelqu'un, on lui donne un numéro. En revanche, quand on donne un nom, quand on nomme, alors c'est le début d'une histoire. Et on reconnaît la singularité, la personnalité de Elliot, de Germine, de Tino, etc. etc. C'est fondamental. Il me semble que c'est pas simplement joli, sémantique, c'est pas simplement... Non, c'est... Je reconnais que tu es existant par toi-même. Tu es singulier. Et l'autre chose qui me paraît importante, c'est la différence entre savoir et connaître. On peut chercher sur Internet des choses que l'on sait sur les pies, sur les merles, sur les cachalots. Ça ne remplira jamais ce qu'est la connaissance. La connaissance, c'est tisser des liens, c'est vivre avec des moments partagés. Quand vous parlez de votre ami, vous ne dites pas il mesure 1m85 et il pèse 92 kilos et il a mangé des sardines à midi. Non, vous dites on a partagé cette promenade ensemble. Vous racontez les liens que vous avez tissés, les moments que vous avez partagés. La connaissance, c'est ça, c'est le partage du vivant. Et la vie, ça ne s'apprend pas sur Internet, ça s'apprend dans les rencontres. La vie, le vivant, les êtres vivants, ça se vit.
I don't think I could say anything that would exceed that.
Je pense que je ne peux pas dire quelque chose qui aille au-delà de ça ou qui dépasse ce qui vient d'être dit, et je suis d'accord.
C'est vrai que c'est difficile. Mais par rapport au nom, j'ai donné ce nom Tino parce que c'était ma première rencontre. Depuis que Tino est parti, désolé de l'annoncer, depuis qu'il est parti, d'autres merles sont venus le remplacer. J'ai jamais réussi à leur donner un prénom. Parce que Tino, c'était le premier qui m'a éveillé. Maintenant, je les appelle le merle. Mais quand je dis le merle, c'est avec une majuscule. Voilà.